France, présente dans 14 pays et leader en assurance vie en Afrique subsaharienne francophone, vous propose Priorité Santé.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Nos modes de vie agissent directement sur notre santé et s'il est une maladie étroitement liée à cette hygiène du quotidien, ses bonnes ou mauvaises habitudes, ce que l'on mange, ce que l'on boit ou l'intensité de notre activité physique, c'est bien le diabète. Le diabète, ce dysfonctionnement du métabolisme du sucre dans l'organisme, constitue aujourd'hui plus qu'un problème, mais bien un véritable défi de santé publique pour l'Afrique. Car l'urbanisation rapide, conjuguée au changement des habitudes alimentaires et à l'augmentation globale de l'espérance de vie, ont véritablement fait exploser le nombre de malades. Si bien qu'aujourd'hui, ce n'est pas exagéré que de parler d'une véritable épidémie. Une épidémie aussi dangereuse que silencieuse, puisque 80% des personnes souffrant d'un diabète de type 2 ne sont pas diagnostiquées aujourd'hui en Afrique. Alors pour y faire face, il faut à la fois prévenir, informer et traiter, et pour agir dans des États du Sud, encore faut-il disposer de financements multiples et former les acteurs de terrain. Cette lutte contre le diabète en Afrique, elle est au centre de la conférence internationale sur les perspectives francophones en santé globale, organisée les 19 et 20 décembre à Grenoble. Et Priorité Santé était justement à Grenoble pour suivre cet événement. Le diabète en Afrique, une troisième émission que nous consacrons à cette pathologie chronique en l'espace d'un peu plus d'un mois dans notre émission. Aujourd'hui, le thème central de Priorité Santé, ce sont les initiatives de terrain, des partenariats entre acteurs locaux, les gouvernements nationaux, les organismes internationaux. Et avec nous, trois invités. Fouad Mouadji, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'ancien vice-président de la République des Comores. Autour de cette table également, Pierre Salignon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable de la division chargée des relations avec les organisations de la société civile de l'Agence française de développement, l'AFD. Et enfin, Stéphane Besançon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes nutritionniste. Les auditeurs de Priorité Santé vous connaissent bien, puisque chaque semaine, vous signez votre chronique nutrition dans notre émission. Ces conseils pour mieux manger, mieux se porter, car on va avoir encore l'occasion de le dire pendant cette émission, une bonne alimentation, c'est la meilleure des préventions.
RFI.
Et Stéphane Besançon, vous êtes aussi directeur de l'ONG Santé Diabète au Mali, organisation qui a été fondée en 2001-2017. Qu'est-ce qui a changé au cours de cette période? On s'arrête donc sur ce cas malien que vous connaissez bien. Un petit état des lieux sur la situation épidémiologique.
Alors au Mali, on est sur une prévalence du diabète qui est pratiquement à un peu plus de 3% de la population, ce qui est quand même, là on parle du diabète de type 2, c'est-à-dire celui qui est lié au mode de vie. Sur le diabète de type 1, le diabète de l'enfant, on avait il y a une dizaine d'années quasiment pas d'enfants vivants avec leur diabète, parce que le manque de diagnostic et de moyens de traitement, ils mouraient tous. Aujourd'hui, on a des files actives qui grossissent de manière exponentielle, on a 500 enfants suivis, donc on n'a pas de données de prévalence réelle, mais on voit que dès qu'on leur fournit de l'insuline et tout ce qu'il faut pour survivre, on a beaucoup de cas aussi, parce que pendant longtemps, les gens disaient ce diabète-là n'existe pas en Afrique de l'Ouest ou au Mali, c'est pas qu'il n'existe pas, c'est que les gens avaient mouru les enfants, donc maintenant, on voit ces diabètes apparaître, et on a aussi, donc si on revient sur le diabète de type 2, on a aussi une prévalence des facteurs de risque qu'on oublie souvent, c'est-à-dire du surpoids, de l'obésité qui est très importante puisqu'on est à pratiquement 20% maintenant de la population adulte qui a un surpoids. Donc c'est pas du tout négligeable et c'est en dehors des, j'allais dire, des stéréotypes qu'on a un peu des fois quand on parle d'un pays sahélien comme le Mali en pensant qu'on est plus sur un pays de famine qu'un pays de malbouffe.
Quand on dit 80% des cas non diagnostiqués en Afrique, ça veut dire quoi exactement? Comment est-ce qu'on sait justement que ces personnes sont malades si elles ne sont pas diagnostiquées?
Alors, c'est purement des extrapolations, j'allais dire épidémiologiques, mais on sait, enfin, quand on fait des dépistages, en fait, aléatoires, on se rend bien compte qu'on dépiste des gens qui ont des glycémies, des profils de diabète, où ils sont déjà diabétiques depuis 4-5 ans, et c'est aussi comme ça qu'on arrive à se rendre compte qu'on a, en diagnostic initial, que 20 à 30% des patients suivant les pays, et que les autres, et ben, du coup, on les a soit dans des dépistages aléatoires, soit quand les complications arrivent, souvent 7 ans, 8 ans, 9 ans après, ce qui est vraiment un gros problème. problèmes à la fois de santé et d'économique, parce que les patients avec des complications importantes, ce qui complexifie la réponse pour le système de santé, mais aussi pour le patient lui-même, parce que si on parle de dialyse, si on parle de choses comme ça, on est dans des coûts qui sont très importants.
Alors, état des lieux donc pour l'Afrique de l'Ouest, on va maintenant vers l'océan Indien, les Comores, avec vous, Fouad Mouadji. Comment les choses ont-elles évolué au cours des dernières années dans votre pays? D'abord, justement, une approche en termes de chiffres. Est-ce qu'il y a beaucoup de diabétiques aux Comores?
Il y a beaucoup de diabétiques, mais comme vient de le souligner ici Stéphane, qui ne sont pas connus. Parce que la première enquête, c'était en 2011, la seconde fin 2013. On peut dire que plus de 8 à 9% de la population est diabétique, mais plus de 80% ne connaît pas son statut.
Avec les mêmes problèmes de métabolisme, obésité.
Obésité, bon, EMT, maladie non transmissible. Mais ici, ce qu'il faudrait constater, parce que j'aime toujours dire qu'entre partenaires, il faut se parler avec le cœur. Ici, il y a un problème de culture qui se pose. Dans les pays du Nord, ayant vécu ces maladies, il y a toute une culture de faire un bilan annuel. Là-bas, ce n'est pas encore le cas. Et ceux qui ont cette volonté d'aller faire ce bilan, les conditions ne sont pas encore réunies au niveau de toutes les structures sanitaires.
Est-ce que c'est une prise de conscience ou c'est simplement, Fouad Mouadji, un problème de moyens?
Les deux à la fois. Parce qu'il faut d'abord connaître, quand nous parlons de l'obésité, jusqu'à un certain moment, c'était considéré comme un signe de bonheur, un signe de bien-être. Mais maintenant, on commence à comprendre que quand vous êtes obèse, cela veut dire que vous n'êtes pas en bonne santé. Puisqu'il y a le problème d'AVC, il y a le problème de diabète, voilà.
Cardiovasculaire.
Donc, ce que nous cherchons maintenant, c'est de sensibiliser les gens à aller se faire diagnostiquer. L'une des raisons qui a poussé l'État comorien, il y a bientôt plus de 2 ans, à avoir ce partenariat avec Santé Diabète pour justement nous appuyer dans ce sens.
Priorité santé sur RFI.
Pierre Salignon, dans une tribune que vous avez publiée cette année, vous êtes l'un des co-signataires, vous citez des chiffres, des projections. D'ici 2040, 42 millions de diabétiques en Afrique, et vous alertez sur l'insuffisance de la réponse internationale en termes de financement. Est-ce que cet appel, aujourd'hui, a trouvé un écho?
Je pense que ça va être un long chemin. Hein. L'essentiel des financements est mobilisé à travers la lutte contre les maladies transmissibles, et la question des maladies non transmissibles reste encore en deçà des radars de façon générale. Alors il y a une prise de conscience progressive, et elle est essentiellement liée à ce que nous on appelle les contreparties nationales, c'est-à-dire des responsables d'État, comme Fouad, comme des ministres dans différents pays, qui sollicitent l'AFD et ses partenaires comme Santé Diabète, pour être accompagné autour de la définition de politique de santé publique. Et c'est bien parce qu'il y a une prise de conscience liée peut-être à du diagnostic qui s'améliore, à l'organisation des patients et des personnels de santé autour de cette lutte, qu'on voit progressivement, on va dire, la mobilisation s'opérer. Donc du point de vue d'une agence comme l'AFD, hein, aujourd'hui on est quand même, je pense, un des rares bailleurs à avoir assumé à la fois le soutien vis-à-vis d'une organisation de taille moyenne en devenir, d'une certaine manière, mais comme très précise diabète. Comme Santé Diabète, tout en étant sur des éléments d'accompagnement dans un certain nombre d'États, comme aux Comores, pour essayer de promouvoir des politiques de santé publique qui viennent à changer un petit peu la manière dont on approche ces prises en charge, dont on parle de prévention, dont on mobilise les différents partenaires pour qu'on trouve des solutions. Parce que c'est un vrai défi de santé publique globale, c'est un défi pour les patients avant tout, les barrières financières à l'accès aux soins sont majeures, c'est un défi pour les systèmes qui sont déjà dans un certain nombre de pays très fragilisés et qui pourront pas faire face à la situation si on n'est pas sur une approche intégrée, inclusive, différente de la façon dont on a des patients qui consultent, qui viennent pas simplement pour une pathologie. C'est-à-dire l'approche par maladie, elle n'est pas suffisante. Il faut être beaucoup plus intégré dans la manière dont les consultations sont organisées, dont le travail est fait en amont, et la question de la prévention est centrale.
Quand on vous écoute quand même, on a l'impression qu'il y a eu avant un travail de terrain, un besoin qui a été relevé, peut-être même une sollicitation internationale, et que finalement, le plus dur à faire, c'est pour les responsables nationaux eux-mêmes.
Ouais, ça serait un peu réducteur parce que je pense que un certain nombre de nos collègues des États qui sont directement concernés en Afrique sont très moteurs. Après, ils ont à faire face eux-mêmes à des défis qui sont tels dans les face au système de santé et aux questions de santé publique que il est difficile de tout aborder quand on n'a pas, on va dire, des services de base fonctionnels, quand on n'a pas du personnel formé, quand on est dans l'obligation d'une certaine manière de former des personnels en bout de ligne, d'une certaine manière, qui vont permettre ou favoriser l'autonomisation des patients.
Stéphane Besançon, vous voulez réagir?
Oui, je pense qu'il y a deux profils. On a le bon exemple avec Fouad Mouadji, qui était vice-président et ministre de la Santé, et qui à un moment s'est mobilisé, et justement a fait appel à la fois à une structure et à un bailleur pour appuyer l'État. Après, dans certains pays, comme le disait Pierre Salignon, les gens sont débordés d'enjeux. Et du coup, c'est vrai qu'aussi, face à une problématique qui est financée très bien et une autre qui est sous-financée, bah, des fois, face à l'urgence aussi de la réaction, les gens ont tendance à orienter là où il y a des fonds, pas parce qu'il y a les fonds, mais parce qu'il y a une possibilité de réponse et d'intervention. Donc, on a souvent ce problème-là
avec
aussi.
Avec un dilemme de priorité.
Voilà, exactement.
On a longtemps donné, justement, vous en parliez tout à l'heure, Pierre Salignon, la priorité aux maladies infectieuses. Maintenant, il y a toujours cette dynamique, choisir comment on répartit l'argent. Pour l'AFD, aujourd'hui, le diabète, c'est véritablement une priorité?
Notre démarche est bien de soutenir l'émergence d'acteurs susceptibles à la fois d'apporter des solutions, de promouvoir le renforcement des capacités locales et d'attirer un plaidoyer pour entraîner, d'une certaine manière, la mobilisation des États et d'autres acteurs pour que ça soit pris en considération. Mais il y a vraiment un travail de pédagogie à réaliser sur l'impact humain, économique et sociale des maladies non transmissibles et dans les années qui viennent, la nécessité de changer l'approche sur le renforcement des systèmes de santé. L'approche par maladie, elle a apporté plein de choses positives. Il suffit de regarder ce qui a été fait sur le sida. Elle est insuffisante dans la manière d'appréhender ces sujets-là aujourd'hui.
Pour que les gens comprennent bien, ça veut dire arrêter de cibler telle ou telle maladie, mais finalement permettre d'avoir une offre de santé pour prendre en charge la globalité de la santé publique et pas simplement, on va dire, des moments de crise, des actions de terrain. Comment ça se passe? Avec quelle structure aujourd'hui quand on est diabétique? Quand on n'est pas à Bamako, quand on est à Ségou, à Gao, on va voir qui quand on a un problème lié au diabète? Stéphane Besançon.
Si on remonte dans l'histoire, il y a 10 ans, et ben on va à Bamako. Même si on est loin, partout, on prend sa voiture, le bus, et on va à Bamako. Et c'était tout l'enjeu du programme qu'on a monté il y a plus d'une dizaine d'années au Mali. C'était ce qu'on a appelé la décentralisation des soins. C'est d'amener les soins au plus près des populations. Donc si on est à Ségou, par exemple, très bon exemple, on va soit au centre de santé de référence, soit à l'hôpital régional, qui sont des structures de deuxième niveau. Et là, il y a des consultations diabète. Donc nous, on appuie le renforcement des compétences des professionnels de santé, mais qui sont des professionnels de santé, qui ne sont pas des professionnels de santé santé diabète, qui appartiennent aux hôpitaux nationaux, qui sont des fonctionnaires de la fonction publique. Donc on appuie aussi, avec les financements qu'on obtient, le renforcement des plateaux techniques pour qu'ils aient de quoi faire certaines analyses, comme l'hémoglobine glyquée, comme d'autres. Du coup, on essaye vraiment, pour rebondir ce que disait Pierre Seyon, de renforcer le système de santé, c'est-à-dire qu'à la fin, ce soit les structures maliennes qui répondent, et c'est ce qu'on essaye aussi de transférer aux Comores, cette méthodologie de dire, d'essayer de décentraliser les soins. Alors quand on dit soins, c'est pas que les médecins, hein, c'est aussi les analyses qu'il faut, les bilans biologiques, etc., au plus près de leur domicile. Alors après, comme on part de très très loin, c'est très difficile, j'allais dire presque, d'arroser tout le territoire. Donc il faut aller par étapes, niveau secondaire, et puis descendre progressivement au niveau primaire.
Est-ce que Santé Diabète travaille à établir des partenariats avec les hôpitaux français, Stéphane Besançon?
Alors oui, ça c'est une dynamique, on est une petite structure, et ce qu'on a voulu depuis le début, c'est d'être un peu, je sais pas comment expliquer, de dire
un pivot,
voilà exactement, c'est le mot que je cherchais, pour justement faire opérer pas mal de structures, dont les universités et les hôpitaux français. Par exemple, ici on est à Grenoble, on a un gros partenariat avec le CHU de Grenoble. Un exemple, il y a deux mois, on avait un problème avec les urgences pour les enfants diabétiques. On a un jeune urgentiste du CHU de Grenoble qui est venu faire une mission de diagnostic d'abord dans un premier temps pour regarder quelle était la problématique. On est en train d'analyser la problématique et l'année prochaine, on va essayer de dérouler avec le CHU de Grenoble 2 ou 3 missions pour essayer de renforcer les capacités des urgences sur cette problématique-là. Alors pas toutes les urgences, parce que nous, on n'a pas le mandat de gérer toutes les urgences, mais sur ces urgences diabétiques, d'essayer d'amener une vraie solution à l'État malien.
Fouad Mouadji, Santé Diabète intervient aux Comores, hein, on l'a dit. Qu'est-ce qu'apporte ce type d'organisation aux malades?
Je voudrais souligner que pendant longtemps, nous avions croupi sous le fardeau d'autres maladies, telles que la tuberculose, la lèpre pour le cas des Comores, la fièvre typhoïde les paludes qui constituaient 68% des cas d'hospitalisation. Et durant ce temps, on a cru comprendre que le diabète était une maladie des pays riches. Mais quand nous avons fini cette lutte, notamment pour le cas des Comores, nous avons mis fin aux paludes, on a dû constater qu'il y avait d'autres maladies qui étaient encore plus graves, telles que les maladies non transmissibles, dont le diabète. Et les enquêtes rapides que nous avons eues à faire, les problèmes, les complications liées au risque cardiologique, à peine 8% de la population comorienne ne présente pas ce risque. C'est une enquête de 2015, je crois. Donc vous voyez combien le problème est assez sérieux. Donc, revenant à votre question, je pense que si nous avons fait appel ici à cette ONG, vous n'êtes pas sans savoir qu'après la Seconde Guerre mondiale, les pays du Nord ont eu une longue expérience, ont connu cette flambée des maladies non transmissibles. Et il y a 50 ans, vous avez une longue expérience à partager avec nous. Même si certains diront qu'on ne peut pas tout le temps imiter, on ne peut pas faire du coupé-collé, si je peux ainsi. Mais quand même, vous voyez, quand j'ai dit cette transition d'autres maladies aux maladies non transmissibles, mais vient encore un problème très important, c'est le volet de formation des professionnels. Vous ne pouvez pas imaginer que jusqu'ici, nous n'avons pas encore aucun spécialiste dans ce domaine, dans le vrai sens du terme. C'est ce que vous appelez l'endocrinologie, je crois. Donc, on n'en a pas encore un spécialiste dans ce sens. Or, cette formation, c'est une formation très coûteuse. Et nous pensons que cette coopération au niveau de santé diabète pouvait donner les bases nécessaires pour avancer vers cette sensibilisation, mais aussi donner les soins de base nécessaires afin que le patient puisse le plus longtemps possible survivre en entendant la formation des spécialistes.
C'est-à-dire former les spécialistes et former aussi les personnels qui sont directement sur le terrain, dans les centres de soins, aides-soignantes, infirmières, tous ces contacts de santé qui sont
justement
absolument
pour
indispensables.
La prise en charge.
Pour revenir quand même à l'action de santé diabète aux Comores, qu'est-ce que ça a changé concrètement aujourd'hui un diabétique aux Comores? Qu'est-ce qu'il fait quand il apprend ou quand il a un signe, par exemple une complication de sa maladie? On lui fait un test sanguin, comment ça se passe?
D'abord, il y a cette volonté des patients, si je peux ainsi dire, de se faire diagnostiquer. Parce qu'il y a plusieurs missions de sensibilisation, tant au niveau de la télévision nationale, au niveau de la radio nationale, mais aussi les déplacements sur terrain dans les différents districts sanitaires pour sensibiliser aussi bien le personnel, mais aussi la population. Deuxièmement, il y a une appropriation au niveau de la société civile, l'association de lutte contre le sida, le mouvement des médecins, les amis du cœur, qui se déplacent d'une région à une autre pour faire ces genres de tests, la prise de la tension, mais aussi avec l'appui de l'ONG. Beaucoup de postes de santé ont maintenant ce minimum d'équipement, notamment les glucomètres, pour pouvoir détecter si tel ou tel est diabétique.
Et une fois que c'est détecté, il y a de quoi se traiter?
Oui, il y a de quoi se traiter parce qu'il y a la disponibilité des médicaments qui certes ne sont pas encore gratuits, mais le coût quand même a substantiellement baissé, tant au niveau des postes de santé, mais aussi au niveau des dépôts de postes de santé, mais au niveau des pharmacies.
Alors, on va aborder, vous l'avez dit en quelques mots, le coût pour les patients, c'est un point essentiel. Non seulement ce qu'il faut dépenser pour se soigner, mais aussi pour suivre, pour contrôler son taux de glucose. On va en reparler dans la deuxième partie de l'émission. Vous restez avec nous, messieurs Stéphane Besançon, Pierre Salignon, Fouad Mouadji. On se retrouve dans 3 minutes, après les informations, toujours pour parler des initiatives et des partenariats dans la lutte contre le diabète en Afrique. Émission enregistrée à Grenoble à l'occasion de la conférence internationale sur les perspectives francophones en santé globale.
Santé. Caroline Paré.
Et on se retrouve pour cette seconde partie de Priorité Santé enregistrée à Grenoble à l'occasion de la conférence internationale sur les perspectives francophones en santé globale, conférence qui s'est tenue hier et avant-hier dans la ville du sud-est de la France. On retrouve nos trois invités, l'un des organisateurs de cette conférence, Stéphane Besançon, nutritionniste et directeur de l'ONG Santé Diabète au Mali, Pierre Salignon, responsable de la division en charge des relations avec les organisations de la société civile à l'Agence française de développement, et Fouad Mouadji, ancien vice-président de la République des Comores. Est-ce que le fait que vous soyez vous-même diabétique, Fouad Mouadji, a changé votre regard sur les actions, sur les initiatives de terrain? Est-ce que ça vous a donné peut-être envie davantage de vous battre pour les malades?
Bien sûr, mais le plus important, je ne parlerai pas de moi, c'est par rapport aux patients diabétiques qui jusqu'ici souffraient, si je peux ainsi dire, d'une certaine honte, quelque part, d'être diabétique ou d'un sentiment de pessimisme, d'être victime ou d'être atteint par une maladie chronique, cela veut dire qu'on ne peut pas guérir. C'est important parce que le fait de ne pas cacher ce problème à mon niveau encourage les autres. C'est-à-dire que même si le vice-président est diabétique, pourquoi alors avoir honte de le dire? Je disais hier que, entre autres, je préfère le dire parce que il semblerait que si vous avez une hypoglycémie, il y a beaucoup plus de risques de mourir que lorsqu'il y a une hyperglycémie. Je ne sais pas, il y a Stéphane et autres qui sont spécialistes. Semble-t-il que si vous avez cette hypoglycémie, vous pouvez aussi subir un arrêt cardiaque. C'est pourquoi je préfère le dire publiquement, parce que les gens puissent savoir.
Et intervenir en cas d'urgence.
Deuxièmement, je pense que ça permet aussi aux gens d'expliquer aux diabétiques les signes de cette hypoglycémie, notamment la sueur, notamment l'envie de boire, etc., etc. Donc, je pense que moi, en tant que diabétique, pourquoi je me suis approprié cette cause, même au-delà de la fin de mes fonctions, pour justement sensibiliser les gens que c'est une maladie chronique comme les autres, une fois bien prise en charge, une fois bien initié à manger équilibré, à prendre les dispositions indiquées, on peut vivre le plus longtemps possible sans souci majeur.
Cette dimension de prise de conscience, Pierre Salignon, est-ce que vous avez l'impression que c'est quelque chose qui progresse ou on en est encore au début justement de toute cette mission d'information et de prévention?
Moi, je pense que ça progresse, mais faut regarder le décalage qu'il y a entre la manière d'être prise en charge ici et dans un certain nombre de pays qui sont soumis à des difficultés, des chocs multiples. Donc, l'accès aux soins, l'accès au traitement, à la prévention, aux médicaments et les barrières financières sur ce chemin sont majeures aujourd'hui dans une grande partie des pays africains. Il y a une offre de soins privée qui se développe, mais qui n'est pas accessible à tous. Et d'où l'importance, en lien avec les autorités des États, de renforcer la capacité d'être prise en charge dans les systèmes de santé existants. Donc, on parlait tout à l'heure des éléments de l'appel ou de la tribune qui a été signée à plusieurs ici, mais on est bien sur une démarche qui vise à mobiliser l'opinion publique, d'une certaine manière, à travers la mobilisation des malades ou des patients eux-mêmes. Les associations de patients sont majeures. Moi, là, quand Fouad était en fonction, on a été saisi, je me souviens de cette réunion avec deux personnes qui arrivent dans le bureau de l'Agence française de développement et qui nous disent, voilà, on est une jeune association de patients sur les Comores, on n'a pas d'assistance, qu'est-ce qui se met en place? Et on a bénéficié, d'une certaine manière, de la dynamique du vice-président de l'époque, qui a initié dans le ministère de la Santé une vraie démarche pour être accompagné sur une politique de santé publique. Alors après, c'est la théorie des petits pas, hein, soyons clairs, et puis certains services de base sont dysfonctionnels. Donc, comment on insère...
Il n'y a pas de diabétique dans tous les gouvernements.
Voilà. comment on insère un service, une écoute et des éléments de prévention. Mais il est clair que la mobilisation par les moyens, j'ai parlé de la télévision, les radios communautaires et différents représentants du corps médical ou des malades est quelque chose de central pour une prise de conscience et pour améliorer les prises en charge.
Stéphane Besançon, en termes de coûts, ça dépend bien sûr de la gravité, du niveau de la maladie du diabète, mais si on imagine dans un budget, quand on a une personne malade dans une famille, ça représente quel investissement, ça capte quelle part du budget de la famille ?
Alors c'est colossal, on a fait une... Alors là on va partir sans système d'assurance, sans système de protection sociale, on a fait une grande enquête multicentrique, c'est-à-dire plusieurs pays africains, alors nous on vient de publier il y a quelques mois les résultats Mali, on est à peu près sur un diabète non compliqué, c'est-à-dire simple, aux alentours de 180 euros par an, ça fait... c'est quand même déjà beaucoup pour des pays où le salaire moyen est à 50 dollars à peu près. Et quand on prend les coûts annexes, les coûts d'absence, la famille qui doit s'occuper d'un malade, s'il a un pied, des choses comme ça, on avait 56% des familles qui dépensaient 40% de leurs revenus. Donc si on prend là, tous les auditeurs, ils prennent leurs revenus, ils en enlèvent 40%.
Pour soigner.
Juste pour ça. Donc c'est vraiment une échelle absolument colossale en fait.
Et là on prend aussi conscience de ce qu'on appelle le fardeau, c'est-à-dire non seulement il faut traiter le malade, mais en plus... toutes les conséquences pour la vie quotidienne de la famille. Quand c'est le père, c'est ce qu'il ne rapporte pas. Quand c'est la maman, c'est ce qu'elle ne rapporte pas. Ou l'incapacité de s'occuper des autres enfants, c'est vraiment compliqué.
Alors, la Banque mondiale avait fait un rapport il y a quelques années qui s'appelait « La maladie non transmise et le diabète, notamment un investissement vital ». Et c'est vraiment une perspective économique qui était là-dessus, qui était eh ben, quelqu'un qui est chef de famille, qui est chauffeur. S'il a un pied diabétique qu'il a amputé, ben, il perd son travail. Le vice-président parlait de l'hypoglycémie. Là, il a bien décrit tout à l'heure. Il faut une personne au chevet de la personne. Si elle est hospitalisée une semaine, il faut lui amener à manger. Enfin, il faut que des gens se mobilisent pour les soins. Donc, il y a toute la notion aussi derrière les maladies chroniques, qui est aussi la notion de la dépendance, alors qui n'est pas forcément une dépendance totale et permanente. Mais dans l'étude qu'on l'a fait, on le voit que ça mobilise énormément sur les familles. Il y a la question aussi de l'alimentation, changement d'alimentation, qui peut être plus coûteuse, moins coûteuse, ça dépend des choix qui sont faits. Mais du coup, on a une perspective qui n'est pas juste aiguë à un temps T. On a une perspective qui est vraiment qui implique la famille, qui implique les proches et qui peut avoir des conséquences très important. Alors après, si on remonte sur les complications, on complique la donne. Si on parle de dialyse, par exemple, on sait très bien que la dialyse, pour travailler, c'est compliqué, ça mobilise des gens, c'est 3 fois par semaine obligatoire, etc., etc.
Alors vous parlez de dialyse parce que dans de nombreux diabètes, il peut y avoir de graves complications rénales, donc mises sous dialyse, pour compenser l'insuffisance rénale.
Oui, tout à fait. Alors les complications du diabète sont très invalidantes. J'ai parlé juste avant du pied diabétique qui amène à amputation.
Infection des pieds par baisse de sensibilité neurologique.
Voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Afrique, on en est encore à une amputation sur deux, alors non trop, pas liée aux accidents, qui est liée au diabète. Donc c'est colossal. C'est dans un service, quand vous rentrez dans un service de 30 lits, il y a à peu près la moitié des lits où il y a des pieds dans des états terribles. Donc complications rénales qui amènent à la dialyse. Faut pas oublier aussi que le diabète sur l'Afrique est une des premières causes de cécité aussi, puisqu'il y a des complications pour les yeux. Donc tout ça, alors déjà on est sur des conséquences santé directes, mais il y a des conséquences sur la dépendance, sur l'économie, donc on est vraiment sur un vrai fardeau. C'est pour ça qu'on parlait depuis tout à l'heure de prévenir le plus tôt possible, de diagnostiquer le plus tôt possible pour éviter au final ces complications.
Alors pour la prévention, il y a plusieurs moyens, d'ailleurs y compris pour le traitement, c'est l'alimentation. Quand on est malade, on mange des choses différentes. On évite aussi à la famille de tomber malade quand il y a des facteurs héréditaires de diabète. Ces habitudes à changer au niveau de l'alimentation, Stéphane Besançon, est-ce qu'il y a une problématique particulière pour le continent africain ? On mange pas de la même manière au nord qu'en Afrique, c'est évident.
Alors ça va dépendre un peu des pays, mais on pourrait être schématique parce qu'on peut pas là à l'antenne parler pays par pays sur tout le continent. Il y a quand même deux problématiques, qui est la problématique des grandes familles, j'allais dire. C'est beaucoup plus facile de changer ou d'adapter un modèle quand on est 3 autour d'une table plutôt que quand on est 12, 13, 14, voire un pays comme le Mali, des fois 17, 18 autour d'un plat. Première chose, et la deuxième chose qui peut être compliquée, c'est dans tous les pays aussi où il y a une alimentation au plat commun et à la main, parce que là aussi c'est compliqué de mesurer, c'est compliqué de décider...
On peut pas parler de ration.
Voilà, on peut pas parler de ration. On n'est pas forcément décideur de ce qu'il va y avoir dans le plat, suivant la position qu'on occupe dans la famille. Donc il y a tout un contexte social qui change un peu, qui nécessite des travaux pour comprendre les choses, et après qui va nécessiter des réponses. Mais des réponses sont possibles, c'est pas désespéré.
Pierre Salignan voulait réagir.
Je pense qu'il y a un élément qu'il faut souligner, c'est aussi les démarches engagées par un certain nombre d'acteurs de la société civile vis-à-vis de l'industrie de l'agroalimentaire. On voit un certain nombre de produits, on va dire de basse qualité en termes de teneur en sucre, en différentes huiles, etc., bon, qui ont des conséquences néfastes sur la santé des personnes.
Est-ce qu'on peut pointer, sans bien sûr citer de marque, certains de ces aliments qui sont particulièrement néfastes ? Je m'adresse au nutritionniste Stéphane Besançon.
Oui, on a abordé déjà plusieurs fois dans cette émission la question des cubes.
Les cubes alimentaires aromatiques,
qui sont quand même vraiment un problème, un vrai fardeau pour le coup, avec des cubes qui contiennent quasiment que du sel, sur des populations qui savent pas forcément que ça contient que du sel, donc en mettre des quantités importantes qui vont ressaler par-dessus. Et c'est vrai qu'après, on se retrouve avec des quantités de sel absorbées, et on sait que la quantité de sel absorbée a une conséquence directe sur l'hypertension, sur les maladies cardiovasculaires. Ça, c'est un exemple, mais ce que disait Pierre Salignon, c'est plus largement aujourd'hui l'émergence de tous ces aliments qu'on appelle chez nous ultra transformés, c'est-à-dire les aliments de l'industrie qui sont plus réellement des aliments en fait, qui sont des transformations de morceaux d'aliments, donc on se retrouve avec un patchwork des fois, on sait pas trop, alors qui sont pratiques parce qu'ils sont peu coûteux, tout près, donc c'est pratique, mais par contre en contrepartie qui ont une pauvreté en termes de nutriments qui est très forte. Et ça touche pas que la surnutrition, ça a aussi un impact parce que par exemple l'Agence française de développement travaille aussi sur la sous-nutrition. On a plus ces aliments arrivent chez les petits notamment, moins ils contiennent de vitamines, de minéraux, donc on a un problème de surnutrition, mais on a aussi un problème sous la sous-nutrition, enfin les carences en fait quand je dis la sous-nutrition, parce qu'on a des produits qui sont quand même très pauvres aussi en micronutriments, en vitamines.
Pour parler clairement, hein, pour par exemple les mamans qui nous écoutent, plus on va au marché faire ses courses, plus on fait la cuisine, meilleur c'est, bien sûr si on rajoute pas beaucoup beaucoup d'huile, meilleur c'est pour tout le monde.
Oui, tout à fait, parce que l'idée de partir des aliments bruts et de les transformer modérément soi-même, c'est qu'on contrôle, j'allais dire, toute la phase. On contrôle ce qu'on rajoute, on contrôle ce qu'on veut mettre, et que quand on a un aliment ultra transformé, on récupère ce que l'industriel a bien voulu mettre sous un paquet ou ça, et avec les limites que ça. Et je pense que ça, c'est extrêmement important aujourd'hui en Afrique de revenir sur des produits traditionnels qui sont souvent très bon.
Fouane Mouadji, est-ce qu'au Comore aussi, ces changements d'habitude alimentaire ont contribué à faire exploser l'épidémie? Qu'est-ce qu'il y a eu comme grand changement? Est-ce que c'est la même chose qu'en Afrique de l'Ouest?
Vous savez, avec la mondialisation, la pandémie du diabète a réduit la planète Terre à sa simple dimension d'un village. Parce qu'avec l'internationalisation du commerce, à Paris comme au Moroni, on mange pratiquement tout le même produit. Parce qu'il y a les supermarchés où on achète les plus sucrés, les surgelés. Au Comore, c'est le phénomène de la consommation excessive de la viande surgelée et des ailes qui viennent de Brésil. Donc, par rapport à cela, le mode de vie a subitement changé. Mais néanmoins, les gens commencent à comprendre que consommer, par exemple, des féculents, il y a trop de sucre. Il y a les spécialistes qui expliquent que consommer, par exemple, la pâte douce, qui du point de vue goût et sucré, est moins dangereux que la consommation du riz ou du manioc.
Comprendre les apports nutritionnels des aliments.
Voilà. Ce travail, il y a l'un de nos spécialistes, ou le point focal de la lutte contre les maladies non transmissibles, Dr Ansoufoudine, qui fait un travail très musclé, je peux ainsi dire, là-dessus, avec des interventions au niveau de la télévision nationale, mais aussi au niveau de la radio, et des déplacements dans les différentes structures sanitaires. Stéphane a soulevé un problème ici assez important, en ma qualité d'ancienne autorité, qui demande l'intersectorialité. Parce que c'est d'arriver à la campagne que j'ai eu à lancer lorsque j'étais en charge du ministère de la Production, justement qui va dans ce sens de revenir sur les plats traditionnels, manger comorien pour être en bonne santé pour bien se nourrir.
Priorité santé sur RFI.
Transition alimentaire, on l'a compris, transition alimentaire, transition épidémiologique aussi, il y a ces changements, ces variations, Pierre Salignon. Est-ce que on peut expliquer comment dans un même territoire il peut y avoir sous-nutrition, surnutrition et les interrogations que ça pose en termes de développement?
C'est l'évolution de notre vie en société qui est questionnée. Donc Stéphane sera plus à même que moi de répondre à ces questions. Par contre, c'est un défi pour les systèmes de santé. On ne peut pas penser que les systèmes de santé aujourd'hui, dans un certain nombre de pays africains, pourront faire face à ce défi si on n'investit pas de façon majeure dans la prévention, pour réduire les coûts induits derrière et puis pour anticiper l'évolution des maladies, pour pouvoir ne pas avoir des patients qui arrivent à des stades très en retard en fin de compte vers les structures de soins avec tous les coûts induits et les questions de santé que ça va leur poser. Donc on voit bien qu'il y a une nécessité de changer d'approche. Ce qui est un peu surprenant, c'est à la fois, on le voit ici à Grenoble, sur l'intervention de nos différents collègues du Mali, des Comores et d'ailleurs, ils sont très à même aujourd'hui de dire il faut renforcer, on travaille sur la formation, mais ils reconnaissent aussi qu'il y a un déficit de personnel de santé disponible dans les structures de soins. Ils reconnaissent que l'essentiel des personnels de santé qualifiés sont en milieu urbain et pas en milieu rural. On pourrait parler des barrières à l'accès financier, à l'accès aux soins. Si on ne travaille pas sur les systèmes de protection sociale demain, un certain nombre de personnes ne pourront pas avoir accès au traitement, aux services.
Ça veut dire que même si on met en place les structures, même si on forme les personnes, si les gens n'ont pas d'argent pour se soigner, ils ne se soigneront pas.
De travailler au niveau global. Et les finances publiques, on va dire, les financements publics internationaux ne seront pas la solution seule. C'est-à-dire, ça peut permettre de mobiliser, d'initier des démarches, etc. Mais il faut que les budgets nationaux des États, notamment en faveur des enjeux de santé, progresse. Il convient de penser à des systèmes d'assurance pour ceux qui peuvent se le permettre. Il convient de penser à des socles minimaux d'accès aux soins qui permettent de préserver ceux qui sont les plus vulnérables. Et puis, je pense qu'il faut penser à un certain nombre de on parle beaucoup d'espace fiscal, etc., dans les pays directement concernés, mais de mécanismes de taxation sur les boissons sucrées, un certain nombre de produits qui émettent du carbone, je ne sais pas, mais la question de la taxation et de comment générer des ressources additionnelles pour faire face dans ces pays, sur la cigarette, etc., à l'enjeu du financement, est centrale. Bien sûr qu'il y aura une part de la ressource qui viendra des ménages, mais il ne faut pas que ça se fasse de façon inéquitable. Regardons en France comment on arrive à fonctionner, à préserver grâce à un système de sécurité sociale. On se pose même pas la question quand on est, je le fais un peu vite, mais diabétique aujourd'hui, de comment on va être pris en charge.
Justement, cette prise en charge, on a vu au cours des dernières années, pour l'accès au traitement pour les maladies infectieuses, on pense bien sûr au VIH, une gratuité des traitements. La question doit se poser aujourd'hui, on utilise le même terme de pandémie, d'épidémie, de diabète. Est-ce que ça veut dire qu'avoir un accès, Stéphane Besançon, un accès gratuit au traitement, c'est quelque chose d'impossible ?
Alors, je vais faire une réponse de Normand, oui et non. C'est-à-dire, ça dépend de, en fait, la question, c'est plus la question du tiers payeur, c'est qui va payer. Si vous prenez, là, vous avez pris l'exemple du VIH et le Global Fund ou d'autres financements extérieurs qui payent intégralement les traitements jusqu'à aujourd'hui, mais se pose la question maintenant du nombre de malades, de la chronicité, des budgets qui explosent face à des ressources qui s'amoindrissent. Donc, si on prend l'exemple, le Mali, on a une prévalence de VIH qui est 0,7% de la population. Si on prend le diabète, on parlait de 5 à 3, 4, 5, le vice-président des Comores parlait de 8 pour les Comores, c'est-à-dire que le volume de malades est tel que ce serait des budgets complètement faramineux. Donc je rejoins ce que disait Pierre, ça me semble impossible d'avoir ça totalement pris par l'aide extérieure, c'est pas possible. Après, pour les patients eux-mêmes, aujourd'hui, on est à un problème que c'est trop cher. Et pour nous, ce qu'on propose, la seule solution qu'on voit, c'est les systèmes de protection sociale. Au Mali, par exemple, le gouvernement malien a mis l'aide médicale obligatoire en place. Alors pour le moment, ça touche que les salariés, donc 17% de la population. Mais sur cette population-là, ça fonctionne. Le diabète est dedans. Alors, pas totalement, c'est encore à travailler. Il y a tous les médicaments, mais il n'y a pas les bandelettes de glycémie, par exemple, qui restent un problème. Mais ça, c'est petit pas de les rentrer. C'est une prise en charge entre 70 et 80%, suivant si on est sur les traitements ou les soins. Il reste un reste à charge que de 20 à 30% pour les patients. Donc tout à l'heure, quand je parlais des 180 euros, eh ben avant, c'était 180 euros par an. Et maintenant, pour le patient, réellement, il lui reste 35, 40 euros par an. Donc c'est une bascule. Vraiment bien. Et dans ce système-là qui a été un moment difficile à mettre en place politiquement, eh ben beaucoup de patients, enfin de gens qui voulaient pas adhérer parce que c'était un système par répartition et puis il fallait expliquer, il y a eu un peu de manque de pédagogie, quand ils ont vu notamment les patients chroniques ce que ça apportait, enfin de la rentabilité financière, je veux dire pour eux, il y en a eu un raz-de-marée de patients diabétiques, drépanocytaires et d'autres qui ont adhéré au système parce que c'est une plus-value énorme pour eux et pour leur famille puisqu'en plus ça prend les ascendants, les descendants. Donc je pense que oui, c'est possible d'avoir une réduction des coûts. Et par exemple, si les mutuelles venaient s'associer, ou alors la couverture santé universelle, on pourrait arriver au 100% peut-être, et pas 80%. Mais je pense que de penser que pour des maladies qui ont ce coût-là, pareil pour le cancer, où les coûts sont faramineux, le nombre de patients est très important, un global fund ou un financement extérieur va venir éponger le coût des traitements, ça me semble totalement irréaliste.
Problème du financement qu'on a abordé, autre question centrale, vous l'avez évoqué rapidement tout à l'heure, Fouad Mouadji, en disant qu'il n'y avait pas d'endocrinologue dans votre pays. Si je ne me trompe pas, il y a 2 diabétologues. Où en est la formation aujourd'hui des personnels pour justement avoir une meilleure approche, une meilleure prise en charge du diabète aux Comores?
Avant de répondre à votre question, je voulais revenir sur la gratuité. Vous savez, il y a un adage comorien qui dit que ce qui est gratuit est très cher, coûte très cher. Je donnerai un exemple. Mais j'espère que le Fonds mondial ne va pas se passer pour ça. Le fait qu'on distribue le moustiquaire gratuitement, comme c'est gratuit, certains vont jusqu'à utiliser ça pour faire la culture maraîchère, d'autres pour tisser des cordes pour faire l'élevage caprin et autres. Fort heureusement, quand nous avons pu éliminer le palu, presque à 98%, on a constaté que les résultats scolaires ont un peu amélioré, parce qu'il y avait moins d'absence aussi bien d'élèves que d'enseignants, on a compris que tout doit commencer d'abord par l'éducation, mais aussi la santé. Il faut d'abord une appropriation. Donc, ceci étant, là, l'actuel gouvernement a continué le travail que nous avons entrepris, l'élaboration de la loi sur la couverture sanitaire, qui est déjà adoptée au niveau de l'Assemblée. On espère que d'ici 2018, ça va commencer. Je ne dis pas que tout sera en rose, mais il faut quand même certaines initiatives. Et les possibilités de taxes ici sont là, notamment les boissons gazeuses, qui sont à l'origine de ces problèmes de diabète, mais aussi d'autres maladies non transmissibles. Mais il faut aller par étapes, sensibiliser les gens. Et parallèlement à ça, si on supprime, si on surtaxe, il faut aussi que l'on puisse aussi prendre les dispositions de produire de ces boissons au niveau local qui ne seraient pas beaucoup plus dangereux que les boissons gazeuses qui souvent viennent de l'extérieur.
On a pointé les engagements avec vous, l'engagement du gouvernement des Comores par exemple sur cette question du diabète. Comment est-ce qu'on peut qualifier aujourd'hui, Pierre Salignon, l'implication de l'Organisation mondiale de la santé face à cette question, cette urgence de santé publique?
Je pense que la prise de fonction du nouveau directeur général a été marquée par des déclarations très claires, faisant de la lutte contre les maladies non transmissibles une priorité. Donc c'est important parce que l'OMS a cette aura au niveau normatif d'une certaine manière pour engager les États à changer leurs pratiques. Mais on revient derrière à... Les pays sont très différents, sont très inégaux en fin de compte sur leur propre capacité à faire face. Et donc c'est là que je dirais que des organisations comme l'Agence française de développement a un rôle dans l'accompagnement des politiques publiques, dans le renforcement des systèmes de santé ou du point de vue de la division que je dirige, l'accompagnement des organisations de la société civile. Et je pense, bon, c'est un point, je l'ai dit très rapidement tout à l'heure, mais l'accompagnement des associations de patients est, à mon sens, central. Central parce qu'ils sont plus à même que quiconque de définir leurs besoins, de rappeler comment ils font face et les difficultés qu'ils rencontrent et comment résoudre un certain nombre de difficultés. Moi, je reste convaincu que des alliances entre fédérations de patients du Nord et du Sud sont très importantes pour faire bénéficier des avancées d'un côté en cours. Et puis, il faut quand même être conscient qu'aujourd'hui, la population des pays comme les Comores ou le Mali, ils ont accès à l'information. Ils n'ont pas accès au traitement, ils n'ont pas accès aux services. Mais l'information est très présente. Les nouvelles technologies de l'information, les réseaux, les connectent. Ils évoluent très vite. Donc, ils voyagent. Ils reviennent pour certains qui ont les moyens avec des outils qui leur permettent de s'autonomiser dans la prise en charge de la maladie. Donc, c'est par ces éléments-là aussi qu'on fait évoluer les pratiques, qu'on pousse l'industrie pharmaceutique à réviser ses prix, à mettre sur le marché des éléments diagnostiques accessibles. C'est quelque chose qu'on a vu dans le domaine du sida, qui n'est pas très différent, hein, je dirais, dans la mobilisation des malades sur le diabète en particulier.
Ça veut dire, c'est le mot de la fin, Stéphane Besançon, qu'une forme de rivalité maladie infectieuse et maladie non transmissible, elle est dépassée. Peut-être qu'il faut penser en termes de stratégie globale et surtout en approche globale, y compris dans les structures de santé.
Elle est complètement dépassée, notamment parce que l'infectieux, c'est pas non plus que le VIH, et qu'aujourd'hui, un des gros sujets sur l'agenda de santé, c'est le lien entre la tuberculose et le diabète, puisque les diabétiques ont plus de tuberculose et la tuberculose décompense le diabète. Donc dans des pays où les deux sont très prévalents, c'est impossible d'avoir une verticalité. Donc il faut absolument intégrer, et je pense qu'aujourd'hui, c'est un message, et le nouveau directeur de l'OMS l'a passé très tôt, c'est intégration, et toujours le même message de renforcer le système de santé et pas juste de renforcer la prise en charge d'une maladie. Et les liens sont de plus en plus étroits avec l'environnement, les perturbateurs endocriniens, la tuberculose. Donc on voit bien, de toute façon, dans ce schéma-là, quand on parle d'un schéma global, qu'il va falloir renforcer les structures de santé et que l'intégration et que le moment où il y avait d'un côté un type de maladie de l'autre est complètement dépassé aujourd'hui.
Merci beaucoup à vous trois d'avoir participé à cette émission Priorité Santé. Stéphane Besançon, nutritionniste et directeur de l'ONG Santé Diabète au Mali, Pierre Salignon, responsable de la division chargée des relations avec les organisations de la société civile à l'AFD, l'Agence française de développement, et à vous, Fouad Mouadji, ancien vice-président de la République des Comores. Et merci à l'équipe de Priorité Santé qui chaque jour fabrique et réalise votre émission, à Sétou Samaké, Ophélie Lassène à Paris, Victor Hull, ici, à Grenoble. Et on change de continent demain dans Priorité Santé. Nous partirons à Shanghai en compagnie d'Igor Strauss pour un reportage consacré aux innovations et partage franco-chinois dans le domaine médical. Et vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur notre application Pure Radio et notre site rfi.fr, rubrique émission. À demain.
Priorité santé avec Suno Assurance. Notre métier, l'assurance.